Bonjour tout le monde. Dans son livre Fuzzy Memories, Souvenirs flous, Jack Andy raconte une histoire qu'il a vécue lorsqu'il était jeune et à l'école. Il a été victime d'intimidation. Ça c'est vraiment plate quand ça arrive. Et lorsqu'il y a des voyous qui vous bousculent, puis vous sentez que vous pouvez vraiment rien faire parce qu'ils sont tellement plus grands et plus gros que vous. Vous sentez vraiment petit. Et Jack raconte l'histoire, justement, lorsqu'il était à l'école, il y avait ce voyou à chaque dîner qui allait le forcer à lui remettre son argent de poche, l'argent que sa mère lui avait donné pour son dîner. Et là, ça durait plusieurs jours. Chaque dîner, il fallait qu'il donne son argent. Il se faisait bousculer par ce voyou. Et il avait donné son argent. Et là, à un moment donné, cette année, il dit, ça n'a pas d'allure. Là, ça va faire. Tiens, j'en ai jusque-là. Là, je vais me battre. Il dit, là, je vais apprendre à me défendre, puis je vais me battre. Alors, il est allé voir une école de karaté. Il dit, tiens, je vais aller prendre des cours de karaté pour apprendre à me battre. Et là, il a réalisé tout d'un coup que le professeur chargeait 5$ à chaque session. Puis là, il a commencé à penser à son affaire, mais il dit, ça n'a pas de bon sens, c'est donc bien cher, ça. Puis, il a commencé à réfléchir, puis il est arrivé à la conclusion, finalement, que ça coûterait moins cher de simplement donner l'argent au voyou, puis de laisser faire, tu sais. Et c'est ça qu'il a fait, il a abandonné les cours de karaté, puis il a simplement donné de l'argent au voyou, il sauvait de l'argent. Vous savez, il y a bien des chrétiens qui ont la même attitude devant Satan et ses tentations. Au lieu d'apprendre à se battre, ils font simplement payer le voyou. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce qu'on apprend dans les Écritures, c'est que les chrétiens sont dans un combat spirituel et nous avons besoin d'apprendre à nous battre, à nous préparer pour le combat. Maintenant, évidemment, on ne parle pas d'un combat et d'une bataille physique ici, on parle d'une bataille spirituelle. D'ailleurs, ce jadis missionnaire en Chine avec la OMF, Arthur Matthews, est allé avec sa femme, et il a été vraiment comme retenu, captif pendant un certain temps en Chine communiste, et il a écrit un livre intitulé « Born for Battle »,« Né pour combattre ». Son livre offre 31 études bibliques sur le combat spirituel. Et en regard au combat spirituel, voici ce qu'il dit. Il dit, nous pouvons trouver plusieurs indications dans la Bible des motifs de Satan et des méthodes qu'il utilise. Si seulement on prenait le temps de les observer, il est le maître trompeur, l'adversaire, l'accusateur des saints, le père du mensonge. Il est un meurtrier dès le commencement. Et son but ultime est de déloger Dieu de son trône dans la pensée des hommes et d'occuper ce trône lui-même. Nous avons besoin, vous et moi, de vraiment nous arrêter sur cette question-là qui est tellement importante dans les Écritures saintes, le combat spirituel. D'ailleurs, dans quelques semaines, environ 3 semaines, nous allons commencer une série, toujours dans la lettre aux Éphésiens, mais c'est une nouvelle série, et nous allons regarder les armes du chrétien. Mais nous voulons conclure la série que nous avons commencée il y a plusieurs mois sur l'identité du chrétien, alors que Paul va fermer sa lettre et termine sa lettre aux Éphésiens sur ce passage très solennel du combat du chrétien. Et aujourd'hui, nous avons une bonne idée, après avoir passé à travers la lettre aux Éphésiens, on commence à avoir une bonne idée de la nouvelle identité du chrétien. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont une nouvelle créature, comme on l'a dit plus d'une fois dans 2 Corinthiens 5, 17, ils sont passés d'une ancienne nature à une nouvelle nature. Les choses ont changé, toutes choses sont devenues nouvelles, ils sont une nouvelle personne. Et nous avons passé à travers les mois pour découvrir quelle était maintenant cette nouvelle identité que nous avons tous, nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Nous avons découvert, par exemple, que ceux qui sont nés de nouveau sont saints, déclarés saints par Dieu. Ils sont bénis, appréciés, sauvés, réconciliés, encouragés, entendus, doués, nouveaux, pardonnés, adoptés, habilités par la puissance du Saint-Esprit. On est rendu apte à changer et devenir de plus en plus comme Christ. Nous sommes aimés, nous sommes récompensés. Et aujourd'hui, on termine la série en apprenant qu'en Jésus, nous sommes également victorieux. Est-ce que j'entendais « Amen » ? Nous sommes victorieux. C'est important pour nous d'enregistrer ça. Nous sommes victorieux. Voilà ce que nous sommes maintenant. Vous avez dans votre bulletin une feuille qu'on vous a remis ce matin, une feuille avec la liste de tout ce que nous sommes maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Une personne est venue me voir la semaine dernière, m'a demandé, a dit, Normand, est-ce que tu pourrais me donner la liste de ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ? Et j'aimerais pouvoir m'en servir de temps en temps, la sortir, lorsque je passe par des moments difficiles, et me rappeler qui je suis maintenant en Jésus-Christ. Et ça, j'ai trouvé ça une idée excellente, parce que dans le fond, ça s'inscrit très bien dans toute la question du renouvellement de l'intelligence que nous avons dans les Écritures. Nous avons besoin de changer la cassette, le tape, le CD, le DVD, tout ça, tous les nouveaux termes, là, dans notre esprit, pour comprendre maintenant tout ce que nous sommes, maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. On a besoin de se le rappeler. D'ailleurs, Jean Destin me disait l'autre jour, il dit, normalement, ça serait intéressant que l'on puisse terminer cette série un dimanche matin, lorsque tu vas terminer, et que nous puissions ensemble prier en prenant cette liste et remercier Dieu pour tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. J'ai trouvé ça excellent, justement, c'est ce matin ce que nous allons faire. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné, donc ces deux raisons, j'ai donné cette feuille ce matin dans votre bulletin, parce qu'à la fin du service, ce que nous allons faire, on va vous donner l'occasion de pouvoir prier le Seigneur, remercier le Seigneur, librement, à tour de rôle, qui voudra bien le faire, à vive voix, et remercier Dieu pour certains de ces aspects que nous avons maintenant en Jésus-Christ. Voilà tout ce que nous sommes maintenant en Jésus. Vous remarquerez que le dernier aspect que nous avons dans la liste, sur cette feuille, c'est que nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Et il nous faut réaliser, bien aimé, et c'est le point que Paul va faire en terminant sa lettre aux Éphésiens, que nous sommes dans un combat spirituel. On peut pas juste dire, ah, moi, ça m'intéresse pas, je veux pas en parler, ça me fait peur, ou, ah, c'est pas, on peut pas faire ça. Et vous allez voir pourquoi tantôt, nous sommes tous individuellement touchés par ça. Que vous soyez un jeune chrétien ou un chrétien avec plusieurs années dans le Seigneur, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes dans une guerre spirituelle. Premièrement, Jésus lui-même a commencé son ministère dans un combat spirituel. Vous vous en souvenez déjà dans le début du livre de Luc, on voit Jésus dans le désert où il est tenté par le diable et déjà il est impliqué dans un combat spirituel. Alors il a commencé son ministère avec un combat spirituel et à la fin de son ministère, alors qu'il est dans le jardin de Gethsémané, il termine son ministère dans le combat spirituel, un combat tellement intense que nous lisons même dans Luc 22 qu'il a sué du sang. Ce que ça laisse entendre pour chacun d'entre nous qui sommes des chrétiens, qui ne sommes pas parfaits, c'est que ça ne changera pas à mesure qu'on va grandir. Nous serons toujours sous l'assaut et les attaques du diable qui va vouloir nous arrêter et freiner. Satan va même intensifier ses efforts contre ceux qui servent le Seigneur. À mesure que le chrétien devient plus fort, les attaques aussi vont devenir plus fortes. À mesure que le Seigneur nous donne la maîtrise sur certaines tentations, sur certaines faiblesses, Satan, lui, va trouver d'autres points d'attaque pour venir nous chercher, nous ralentir. Si Dieu vous aime, le diable vous déteste. Il vous méprise, il vous en veut, il a de la haine pour vous. L'apôtre Paul parle même du combat spirituel du disciple. Et lui-même a vu de ses propres yeux les assauts de l'ennemi, du diable, alors qu'ils se sont acharnés sur lui. Prenons la ville d'Éphèse, par exemple. C'est ce que nous sommes en train de regarder, la ville d'Éphèse. Paul, lorsqu'il est rentré dans la ville d'Éphèse pour la première fois, il a commencé tout de suite à prêcher l'Évangile. Et quelques personnes sont venues au Seigneur. Il a parlé pendant 3 mois dans une synagogue, après ça à l'école de Tyrannus. Nous lisons dans Actes 19 que ça va durer presque 2 ans, peut-être même un peu plus, quelques mois après. Regardez bien ce qui est arrivé dans la ville d'Éphèse alors que Paul prêche l'Évangile. Nous lisons dans Actes 19, par exemple, verset 10, « Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. » C'était tout à fait extraordinaire. Les archéologues ont travaillé pas mal fort à Éphèse, essayer de tout déterrer ça pour essayer de ressusciter un peu le passé et comprendre un peu plus la vie quotidienne d'Éphèse à l'époque du Nouveau Testament. Ils ont vraiment bien réussi. Ils ont trouvé vraiment plein de choses. Ils ont déterré plusieurs bâtiments, plusieurs vestiges. Et ils ont réussi à récupérer plus de 4000 inscriptions à Éphèse. Donc, on a vraiment une bonne idée maintenant de la ville d'Éphèse. Je vous ai déjà parlé l'autre jour de cette ville qui était tout à fait moderne à Éphèse, le centre bancaire de toute l'Asie. Je vous ai donné l'information sur cette ville très moderne et riche à l'époque. Mais un des aspects que je n'avais pas soulevé, que j'ai pas mentionné parce que je gardais ça justement pour le message de ce matin, alors que nous étions pour entrer dans ce passage d'Éphésiens 6, c'est comment la ville d'Éphèse était un centre d'art de magie. On pratiquait la magie, ils étaient reconnus pour cela, la ville était reconnue pour cela. Maintenant, je parle pas des petits trucs, là, de jeux de cartes, des petites choses comme ça, là. Mon oncle, par exemple, Eddie Joseph, est un grand magicien, on s'entend, il fait des trucs, c'est un grand mathématicien, et il a concocté de nouvelles formules, c'est juste par des mathématiques, des règles mathématiques, je le sais parce que c'est mon oncle, et il a écrit plusieurs livres, et j'ai une couple de ses livres à la maison chez nous, et il donne ces petits trucs qu'il fait, là. Et il a écrit, il est très populaire, il a performé devant... en Inde, en Angleterre, même devant la reine d'Angleterre, aux États-Unis, il a été demandé à New York d'aller à New York pour faire des spectacles et tout ça, et il formait des magiciens. On s'entend, magicien petit M, des petits trucs, des jeux de cartes et tout ça. Il a même écrit un livre qui s'intitule « How to pick pockets », comment piquer la poche des autres. Donc, il donne ça, des petits trucs, comment il faisait ça. Et donc, si à la fin du service, il vous manque de l'argent dans vos poches, vous saurez c'est qui. D'accord? Mais on parle pas de ça. Là on parle de la magie avec un gros M. Et c'était très sérieux. La ville d'Éphèse était très reconnue pour ça. Ils avaient toute une réputation. D'ailleurs, la ville d'Éphèse, le nom de la ville d'Éphèse leur a été donné, a été choisi en l'honneur de la magie. Voyez-vous, cette phrase, malheureusement, ça n'a pas sorti correctement en grec, la deuxième ligne, mais au début, c'est « Ephesia grammata ». Alors, le mot « Ephesia » a 6 lettres dans l'original, et chacune des lettres sont un terme de magie qu'on se servait pour essayer de repousser les esprits démoniaques et avoir la victoire sur les dangers. La ville d'Éphèse, ça vient d'un mot, ça vient de la magie. Alors, c'était très populaire à l'époque. On a même pris ces termes et on en a fait des amulettes qu'on portait sur soi, c'était en quelque sorte des porte-bonheurs pour essayer de repousser les sorts, les maladies, le malheur et les dangers. On les voyait comme vraiment des porte-bonheurs. On les considérait comme de puissants esprits protecteurs. Certains se servaient de ces termes et prononçaient ces termes pour exorciser les gens qui étaient possédés des démons. Même certains juifs pratiquaient la magie. Les archéologues, dans leur recherche, ont découvert quelques amulettes sur lesquelles se trouvaient des inscriptions juives. Donc, certains juifs pratiquaient la magie et se servaient de ces termes magiques. On a découvert ces petites amulettes avec des inscriptions juives autour de la ville d'Éphèse et même dans la ville d'Éphèse. Alors, à la lumière de cette information-là, de cet arrière-plan-là historique, regardez bien ce qui se passe maintenant, quand Paul entre dans la ville d'Éphèse, une ville reconnue pour ses puissances magiques et tout ça. Regardez ce qui se passe, verset 11, acte 19, verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient, et regardez bien ce qui suit. Et les esprits mauvais sortaient d'eux. Regardez bien verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants. Des gars qui se spécialisaient à essayer d'exorciser les démons, là. Des gars qui prenaient ces amulettes, là, puis ils avaient vraiment comme peaufiné leur art d'essayer de repousser et chasser les démons. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, ça montre à quel point la Bible est vraie. Est authentique parce que les archéologues ont découvert ces amulettes où il y avait des inscriptions juives. Ces exorcistes Regardez bien ce qui se passe, verset 13. « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Tout d'un coup, il voit qu'en prononçant le nom de Jésus, l'apôtre Paul a du succès à repousser les démons des corps. Eux, ils réalisent, tiens, la voilà l'affaire. C'est Jésus la puissance, on va s'en servir. C'est une autre expression, un autre terme magique, on va s'en servir. Donc, il voit des gens posséder des démons et il prononce le nom de Jésus, puis il dit, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche à sortir de là. Maintenant, ces exorcistes voient la puissance du nom de Jésus sur les démons. Ils veulent maintenant se servir de ce nom-là. On sait c'est qui ces Juifs-là, parce que le verset va continuer, puis ça dit ceci, verset 14, ça dit « Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva, un Juif chef des prêtres. » Regardez bien la réaction maintenant au verset 15, ça dit « L'esprit mauvais leur répondit. » Hey, t'arrêtes-tu? Incroyable. Il y a une voix qui sort de ce bonhomme-là, qui est possédé des démons, puis ça dit, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Réalisez ce qui se passe, là. Ces gars-là travaillaient à temps plein, exorciser des démons, mais les démons ne les connaissent même pas. C'est-à-dire, ça ne donnait absolument rien. Ils sont même pas connus. En même temps, moi je me dis une affaire, mon ami, ils connaissent Paul. Donc les démons te connaissent. Ils connaissent les enfants de Dieu. Alors voici ce qui se passe. L'esprit mauvais, verset 15, leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous. Hey, ils sont une gang, là. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison-là nus. Est blessé. Le gars blessé, le gars possédé des démons, saute sur la gang, part, varge dessus, frappe, commence à donner des coups de pied, des coups de poing, si bien que la gang sont rendus, le linge déchiré, battu, puis sont blessés. Ils sont passés en courant. Maintenant, on réalise que c'est sérieux cette affaire-là. On parle d'un... Voyez-vous ce qui arrive? C'est pas mal sérieux. Combat spirituel très réel. Moi, ce qui est fascinant, c'est de voir que les démons ne connaissent pas pantoute ces Juifs-là qui sont religieux. C'est des gens religieux. Ils les connaissent même pas. Ils ne sont pas connus, inconnus. Et évidemment, ça produit toute une réaction. Verset 17, nous lisons, « Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. » La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Amen. Ah, mon ami. Il y a eu un réveil, là. Un réveil spectaculaire. Regardez bien ce qui se passe par la suite. Verset 18, ça dit ceci. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Chers amis, tu as une confession publique. Les gens commencent à raconter ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils faisaient avec la magie, c'est lié avec la magie. On va voir avec ce qui suit. Et là, il commence à raconter ce qu'il faisait. Verset 19, « Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. » La puissance de l'Évangile. Mais là, c'est vraiment intéressant parce que encore une fois, on a une autre preuve archéologique que la Bible est vraie. Parce qu'effectivement, les archéologues ont découvert des livres de magie à Éphèse. Maintenant, ce qui se passe ici est pas mal puissant. Les gens auraient pu brûler les livres chez eux à la maison en secret. Mais il y a une déclaration qui se fait ici. En apportant les livres devant tout le monde et en brûlant ces livres de magie-là devant tout le monde, ces livres d'incantation, formules magiques et tout ça, ils sont en train de faire une déclaration. C'est que maintenant, on ne met pas notre espoir dans ces choses-là. On va mettre notre espoir sur Jésus-Christ. C'est toute une déclaration, là. Parce que ces formules magiques avaient, timidement, mais ils avaient quand même la réputation de protéger les foyers. Alors, en prenant ces livres et en les brûlant publiquement, ils sont en train de dire, c'est pas ça qui va nous protéger, c'est Jésus-Christ. C'est toute une déclaration de foi, de repentance aussi, de confession publique. Maintenant, on fait ça de temps en temps, brûler des livres en public, mais c'est des livres qui avaient été confisqués par le gouvernement, par les autorités, et on les prenait puis on les brûlait devant les gens pour faire une déclaration, pour dire que c'était illégal. Soit c'était des livres, c'était pas des livres de magie nécessairement, c'était des livres plutôt de quand ça parlait contre le gouvernement et tout ça, et on les brûlait. Mais là, ici, les livres ne sont pas confisqués. C'est les gens de leur propre chef prennent l'initiative de prendre ces livres qui valent une fortune en passant. Ça montre qu'il y avait des chrétiens très à l'aise à Éphèse, parce que pouvoir s'acheter ces livres-là de magie coûtait assez cher. Ils n'ont pas été vendre ces livres-là sur Kijiji et tout ça. Ils ont tout mis ça de côté. Ils sont venus les brûler. Alors, c'est quand même une perte financière. Ça les touche peut-être pas, parce qu'ils doivent être quand même assez riches pour les avoir au départ. Pour les avoir achetés au départ, c'est parce qu'il fallait que tu sois assez à l'aise. Mais ça montre qu'il y avait des gens qui étaient assez à l'aise dans l'église d'Éphèse. Mais ce que ça dit quand même, c'est qu'ils vont perdre de l'argent, une fortune. Mais ce que ça dit ici, c'est ce qu'ils font publiquement, brûler ces livres, c'est vraiment de démontrer publiquement que l'espoir est le seul espoir, la seule puissance véritable, c'est Jésus-Christ. C'est toute une déclaration qu'ils sont en train de faire là. Non seulement ça, selon les concepts, la théorie de la magie qu'on avançait à l'époque, on croyait que la force d'impact d'une formule magique était intimement lié à son secret. Divulguer une formule magique au grand public la rendait inopérante, inefficace. Alors, ces personnes, au verset 18, nous disons que beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait, en venant comme ça, publiquement, s'ouvrir, confesser ce qu'ils faisaient, raconter ce qu'ils faisaient. Ils sont en train de rendre, finalement, selon leur théorie, inopérante et inefficace toute leur formule. Alors, ils sont vraiment en train de mettre le pied dessus, brûler ces affaires-là, c'est fini, on ne veut plus rien savoir. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, on place notre foi en Jésus-Christ. C'est tout un témoignage, tout un réveil spirituel dans cette ville-là. Et Dieu s'est servi de l'apôtre Paul, justement dans cette ville-là d'Éphèse, pour faire le miracle qui allait toucher les cœurs de chaque personne. Dieu a comme brisé le château fort de cette ville, qui était vraiment cette puissance, cette magie qu'ils avaient développée. Ils étaient rendus avec une expertise. Et Jésus rentre là-dedans, mon ami, démolit tout ça. Montre que ça ne vaut absolument rien. Maintenant, Paul, ce que l'on voit, par exemple, c'est que l'apôtre Paul savait que là où il y avait de grandes possibilités spirituelles, il y avait aussi très probablement le plus grand danger et une forte opposition qui allait venir. Voici comment il décrit son expérience lorsqu'il parle à l'église de Corinthe sur ce qui se passe ici à la ville d'Éphèse. Voici ce qu'il est en train de dire. Il dit « Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace, et les adversaires sont nombreux. » Vois-tu, lorsque Dieu travaille puissamment quelque part, attends-toi que le diable va bouger. Le diable ne dérange pas trop les gens qui ne font pas grand-chose pour Dieu. Au contraire, ils ne veulent pas les réveiller, ils veulent les laisser tranquilles, continuent de même, tout est beau. Mais quand tu commences à te mouiller, à t'impliquer, à retrousser tes manches, et tu t'impliques dans le royaume de Dieu, laisse-moi te dire que le diable ne sera pas content. C'est parce qu'on entend même, par exemple, ici, des témoignages de gens qu'on ne peut pas raconter de vive voix, comme ça, à haute voix. C'est des choses privées. Et on entend des choses qui se passent dans la vie de certaines personnes, des conversions qu'on entend parler, des beaux témoignages incroyables, des reconsécrations au Seigneur. On entend de beaux témoignages qu'on voit. C'est évident que la puissance de Dieu est en train d'agir dans la vie de certaines personnes dans l'Église ici. C'est évident que Dieu est en train de bénir cette Église. Et laissez-moi vous dire une chose, le diable n'est pas content. Est-ce qu'on s'attend que ça va rouler comme tout est bien beau, tout est correct, puis il va nous laisser tranquille? Absolument pas. Ça serait naïf de penser cela. Et c'est le point que Paul veut faire. Il veut qu'on se prépare maintenant, pendant que c'est tranquille, et qu'on a la bénédiction, et qu'on se prépare maintenant. Évidemment, sans diminuer certaines des choses que vous vivez. Juste entre les deux heures, entre les deux périodes, moi, il y a des gens qui viennent me voir, me racontent des drames qui se passent dans certains foyers. Et je suis très conscient qu'il y a des gens ici, vous vivez des drames en ce moment, et je suis bien conscient de ça. Que vous autres, vous êtes en plein dans le feu, là, vous êtes dans cette épreuve, le jour du malheur vous a frappé. On est conscient de ça. Et on veut certainement prier pour vous. Mais c'est le point de Paul qu'il veut faire, qu'on a besoin d'être conscient qu'il y a un combat spirituel, et nous avons besoin de nous préparer pour ça. bien des gens sont tentés d'arrêter de servir le Seigneur lorsque les temps, les moments deviennent difficiles. Mais il faut réaliser que là où on fait l'œuvre de Dieu, c'est évident que Satan va s'opposer. Quand le diable voit ce qui se passe et que ça bouge pour la gloire de Dieu, vous pouvez vous attendre qu'il va intervenir. 1 Pierre 5, c'est le point d'1 Pierre 5. Pierre va dire ceci dans 1 Pierre 5, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Nous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas seulement des enfants de Dieu, pas seulement des serviteurs de Dieu, mais nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Et ça fait quoi un soldat dans la vie? Ça combat l'ennemi. On a vu Jésus combattre l'ennemi dans le désert. On l'a vu dans le jardin de Gethsémané au cours de son ministère. Mais savez-vous que même les anges sont impliqués dans un combat spirituel? Dans un passage très étrange, quand tu lis ça, tu dis, « Mon ami, Daniel, le prophète Daniel, a commencé à prier, c'est dans la période de l'exil, il commence à prier, Dieu l'entend, entend sa prière et envoie un de ses anges pour lui donner un message qu'il a été entendu. En chemin, l'ange est interrompu par un combat spirituel avec des esprits et il a été retardé pendant 21 jours avant d'aller voir et rencontrer Daniel. Maintenant, on sait que Dieu est souverain dans tout ça. Mais regardez bien l'ange qui va expliquer à Daniel ce qui vient de se passer. Il explique son retard. Il explique son délai. Et Daniel 10 dit ceci, verset 12. On voit ici sur Daniel 10, 12. Il me dit, alors l'ange me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Vois-tu, tu commences à prier, Dieu entend. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Voyez verset 13, le chef du royaume de Perse, littéralement en hébreu, les chefs de Perse, dans le fond, et ça fait allusion à des esprits qui ont essayé de dominer, prendre le contrôle du pays de Perse. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici l'ange Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Voici un ange qui explique à Daniel la raison pour laquelle il a été retardé pendant 21 jours. Et il explique son délai de 3 semaines en disant que c'est la faute du chef de Perse. En d'autres mots, la Perse, il y a des esprits au ciel qui cherchent à prendre le contrôle de la Perse. C'est vraiment intéressant de voir que la hiérarchie n'est pas la même dans le ciel que sur terre. Parce qu'alors que Israël est très petite, la Perse, c'est une grande puissance à l'époque, et pourtant, ils ont vaincu, les anges ont vaincu, ils ont été plus puissants, victorieux. Mais cette guerre spirituelle a duré 21 jours. Voyez-vous, plusieurs esprits cherchaient à contrôler la Perse. Michaël est intervenu, un des chefs puissants, est intervenu, ils ont eu la victoire. Michaël est ici en train de se battre contre les esprits. On le voit également ailleurs en train de se battre contre Satan pour la possession du corps de Moïse. Par exemple, nous lisons dans Jude 9, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Il y a un combat spirituel. Et nous avons besoin de nous préparer, d'en être conscients. Parce que le croyant qui n'est pas préparé va être faible. Ça va être un chrétien faible. Alors, comment nous préparer et tenir ferme contre les assauts du diable? Bien, tournez avec moi dans Éphésiens, justement. Éphésiens, chapitre 6. On va juste comme toucher le sujet brièvement, parce qu'on va revenir dans 3 semaines de façon plus étoffée avec la nouvelle série. Mais je veux juste dire, soulever 3 points ici. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 10, qui dit ceci. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce que Paul est en train de dire, juste en ouvrant ici ce paragraphe, cette section, il est en train de... Je veux soulever trois points. Premièrement, le combat spirituel est surnaturel. C'est pas physique, c'est surnaturel. Deuxièmement, il est personnel. Le combat spirituel est personnel. Et troisièmement, le combat spirituel se gagne par la puissance de Dieu. Premièrement, le combat spirituel est surnaturel. Nous voyons cela dans les versets 10 jusqu'au verset 12. Paul va employer quatre expressions pour décrire ce qui se passe ici, ce combat-là, c'est contre qui on est en train de se battre. Il va employer quatre expressions. Premièrement, contre les principautés, ça fait allusion à des puissances. Contre des autorités, alors ça fait allusion à des gens qui sont puissants, qui ont de l'autorité, du pouvoir. Trois, contre les souverains de ce monde des ténèbres. Et quatre, contre les esprits de méchanceté dans les cieux. Alors, la dernière expression montre qu'il s'agit vraiment de puissances invisibles et surnaturelles. Alors, le combat spirituel est vraiment surnaturel, mais il est aussi personnel. On est tous impliqués. On ne peut pas juste dire, moi, ça ne m'intéresse pas, ça me fait peur, je ne veux pas penser à ça, je ne veux pas penser au diable, moi, je veux penser au Seigneur et tout ça. Oui, c'est super, mais tu as besoin d'être conscient que tu es impliqué dans une lutte spirituelle. Et c'est le point que Paul va apporter lorsqu'il emploie un terme qui s'appelle « lutter ». Il parle de lutter, cette métaphore, cette image d'une lutte corps à corps. Et vraiment, il se sert de cette expression-là, le mot qu'ils vont se servir, c'est pas comme le général qui est à quelque part dans son bureau, pèse sur le piton pour envoyer des missiles dans le ciel. C'est vraiment le soldat qui est là sur le terrain en train de se battre et faire du corps à corps, en train de se battre avec l'individu. Donc, c'est individuel. Nous sommes tous individuellement impliqués à nous battre contre un adversaire. Nous sommes en contact direct, tous ici, tout le monde, avec l'adversaire. Nous sommes dans une lutte et nous avons besoin de nous préparer pour les moments qui vont s'avérer difficiles. Et c'est ce que Paul est en train de dire au verset 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Moi, je vous souhaite que ça aille super bien votre vie en ce moment. Ah, que ça soit, que ça roule, que ça marche, c'est ce que je vous souhaite. Est-ce que c'est réaliste? Absolument pas. Paul est en train de dire, ça va arriver des moments où le diable va venir vous frapper. Et oui, je comprends très bien que parfois c'est notre propre chair qui nous emmène dans le trouble. Parfois c'est souverain, on ne comprend pas pourquoi on va tomber malade, il y a des choses subitement qui nous arrivent. Mais laissez-moi vous dire que parfois c'est le diable. Parfois c'est le diable lui-même qui vient attaquer. Et même si ça va super bien en ce moment dans ta vie, Paul est en train de dire, prépare-toi pour le jour qui va être difficile. C'est maintenant que ça va bien, que c'est tranquille, que tu dois développer cette discipline spirituelle et être fort dans le Seigneur pour que tu puisses faire face aux jours mauvais qui vont s'en venir un jour. C'est le point qu'il est en train de faire. Et c'est vraiment intéressant parce que Flavius Joseph, qui est un historien qui a existé dans le temps du Nouveau Testament, à cette époque-là, il a écrit des volumes vraiment sur l'histoire juive. Et il a dit ceci, il explique la force, qu'est-ce qui expliquait la plus grande puissance qui était Rome? Comment ça se fait que Rome était si puissant, la plus grande puissance mondiale à l'époque? Et il dit ceci, il a dit, même dans les temps de paix, les soldats romains s'entraînaient comme s'ils s'en allaient en guerre. Et ça, c'est vraiment important de réaliser ça. C'est que pendant que ces calmes étaient en paix, c'est maintenant le temps vraiment de te consacrer, de te donner au Seigneur et te préparer pour les jours mauvais qui vont venir un jour. C'est maintenant que tu peux faire ça. Parce que tu ne tiendras pas le coup quand ça va frapper. C'est sûr qu'il faut le faire. Voilà la force du chrétien. C'est pour ça que Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme. Vois-tu, le combat spirituel est surnaturel, personnel, et il se livre par la puissance de Dieu. C'est le message que Paul va donner. Verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En d'autres mots, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Toute autre force, c'est juste faiblesse. Ça ne marchera pas. Notre force est vraiment dans le Seigneur. Il faut l'épuiser là. Comme enfants de Dieu, non seulement nous sommes sauvés par grâce, mais nous recevons aussi par la grâce la puissance pour vivre victorieusement notre nouvelle identité en Christ. La grande vérité que l'apôtre Paul est en train de présenter à travers toute cette lettre aux Éphésiens, c'est que quand nous sommes disciples, lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes aussi un avec lui. En d'autres mots, sa vie est notre vie, son pouvoir est notre pouvoir, sa vérité est notre vérité, sa méthode est notre méthode. Et comme Paul le dit ici, sa force est notre force. Et la bonne nouvelle, ça ne prend pas beaucoup de la force du Seigneur pour tenir bon puis être fort. Ça n'en prend pas beaucoup, parce que Dieu est tellement puissant que ça en prend juste un petit peu. Tu vas surmonter les pires assauts, les pires attaques que le diable peut t'envoyer. C'est intéressant, dans le début de la lettre du livre de l'Apocalypse, Jésus est là, il se présente, c'est après, il est dans sa gloire, il est déjà dans son ascension, dans le ciel, et là, il est dans la gloire, et il est debout au milieu de cette église, et il écrit une lettre à chacune de cette église, et il écrit la lettre à l'église de Philadelphie. Et il dit ceci, Apocalypse 3, 8, il dit, « Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » C'est intéressant, juste avec un petit peu de puissance, ils ont été capables de tenir bon, de garder sa parole, de ne pas renier le Seigneur, même quand dans les temps difficiles d'épreuves et de persécutions. Juste avec un petit peu de puissance. Ça n'en prend pas beaucoup, hein? Un peu de puissance du Seigneur était suffisant pour les tenir debout et solides dans leur foi. Imaginez, notre propre force n'est jamais suffisante pour affronter le diable et Satan. Mais lorsqu'on se fortifie dans le Seigneur, même un peu de sa force est suffisant pour gagner la bataille. Amen? C'est pour ça que Paul peut dire dans Philippiens 4, 13, il dit, « Moi, je puis tout par celui qui me fortifie. » Il a cette confiance, cette assurance-là. Il peut vraiment tout par celui qui le fortifie, c'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la quantité de force qui fait la différence, mais d'où elle vient. Ultimement, nous savons que l'Église a déjà remporté la bataille contre Satan. Ultimement, on le sait. Par la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a détruit Satan et sa puissance de péché et de mort. C'est déjà fait, c'est classé, nous dit le Nouveau Testament. Il est déjà vaincu. Mais il fait des ravages en attendant. La revue Christianity Today raconte l'histoire, le beau témoignage d'un couple missionnaire qui sont allés travailler dans les bas-fonds de la jungle, la grosse jungle. Et en plein milieu, dans la maison, tout d'un coup, il y a un serpent qui est entré dans la maison. Le serpent était plus haut qu'un homme. Le serpent s'est faufilé dans la maison. Les missionnaires ont eu le temps, juste assez le temps, pour partir à courir, sortir de la maison. Là, il y avait un villageois qui était là avec sa machette, puis il a décidé de rentrer, puis il a dit, « Moi, je vais vous aider, je vais régler son cas au serpent. » Fait que lui, il n'avait pas peur, il était habitué de voir les serpents dans la jungle, il vivait là-dedans, là, régulièrement. Puis, ça, il rentre dans la maison, mais il dit, « Vous autres, là, vous allez rester dehors. Vous allez rester dehors. Là. Restez ici, là, pendant que moi, je rentre dans la maison. » Puis les missionnaires, ils ne sont pas obstinés. C'était correct. Il dit, « Vas-y, c'est correct, tu peux y aller. Moi, je ne m'obstine pas. » Alors, le villageois est rentré avec sa machette dans la maison. T'entendais bing, bang, bing. Les affaires volaient, tout ça. Après un certain temps, il sort dehors. Il sort dehors, puis il dit au missionnaire, là, vous allez rester dehors pendant quelques heures. Regardez bien ça, il dit, j'ai coupé la tête du serpent. Mais le serpent ne le sait pas encore. Parce que vois-tu, il se passe quelque chose de physique, de neurologique avec le serpent et le corps, que ça prend un certain temps pour que le corps réalise qu'il n'y a plus de tête. Fait qu'il continue de bouger dans la maison, puis comme de fait, pendant des heures, les missionnaires ont entendu le serpent frapper des murs, des fenêtres, des meubles à terre, tout ça. Ça a pris des heures. Mais vois-tu, avec le diable, c'est la même chose. Le diable est vaincu. Nous lisons dans le Nouveau Testament que le diable est vaincu. Jésus, par le sacrifice de Jésus-Christ, il a eu la victoire sur la mort lorsqu'il est sorti du tombeau. Il est revenu à la vie. Il a détruit la peur qu'on avait de la mort. Il a prouvé à tout le monde que la vie éternelle, ça existait. Amen. Il a déjoué la mort. On n'était pas capable de garder captif dans le tombeau. Il est sorti. Hey, c'est magnifique. Alors, c'est réglé, ça. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. 1 Corinthiens 15, 57 dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ayant parcouru cette lettre aux Éphésiens, on l'a passé à travers. On peut se demander comment c'est ça que l'apôtre Paul a décidé de conclure sa lettre, qui était tellement édifiante, tellement inspirante, de voir toute la richesse que nous avons maintenant en Jésus-Christ, tout ce que nous sommes maintenant avec cette nouvelle nature. Pourquoi Paul décide de terminer sa lettre en parlant d'une guerre? Mais vois-tu, Paul n'avait pas fini de nous décrire notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Pas fini. Parce que Paul est toujours en train de décrire notre nouvelle identité en Christ. Et ce qu'il dit essentiellement, c'est ceci. Oui, c'est tough être chrétien. Bon sang, c'est coriace. Mais tu sais quoi? En Jésus, tu es victorieux. Amen. La victoire nous est acquise par Christ. Alors le diable n'est pas content. Il veut nous empêcher de grandir le Seigneur. Il veut nous faire tomber. Mais avec Jésus-Christ, on a la victoire. Seigneur notre Dieu, cette lettre termine sur une note tellement solennelle, alors que Paul nous expose ce combat spirituel dans lequel nous sommes tous impliqués, tous, un à un. Chacun d'entre nous, nous avons nos défis, nos propres défis personnels, nos victoires, nos faiblesses à surmonter, nos péchés. Notre chair qui désire des choses qui sont contraires au désir de l'esprit. Mais nous savons aussi qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se livrer. Le diable qui n'est pas content, qui veut occuper ce trône de notre cœur à ta place. Mais Seigneur, nous voulons combattre. Nous voulons nous battre. Nous voulons apprendre à nous défendre, Seigneur, pour ta gloire. Parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes soldats. Seigneur, nous savons que nous sommes déjà victorieux. Nous savons que nous entrerons un jour dans le ciel et pour l'éternité, à être dans ta présence, Seigneur, pour l'éternité, dans la joie, dans la victoire, célébrant la victoire de Christ pour l'éternité. Gardez vos têtes penchées pendant que l'on va continuer à prier. Et j'aimerais vous donner l'occasion de pouvoir vous servir. Peut-être qu'on pourrait même se lever, si vous voulez bien. Levez-vous ensemble, on va tous se lever. Je vais remettre la parole à Boniface qui va nous diriger dans un temps de prière. Et si vous voulez sortir cette feuille de notre identité en Christ, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons maintenant. Courbons-nous encore, prions.